do?
You'll shoot your eye out, kid.
I am serious. And don't call me sir.
Est-ce que ce serait...
Ah oui, la machine qu'on a trouvée près de Saturne, en même temps que vous, oui. Son bloc d'alimentation était fichu, mais on peut vous en trouver un autre.
Oui. Merci.
Paramètres. Paramètres généraux. Paramètres de sécurité.
Franchise, nouveau paramétrage. 95%.
Confirmé. D'autres ajustements?
Oui, humour. 75%.
Confirmé. Autodestruction dans H-10, 9.
On va descendre à 60%.
Confirmé, 60%. 0 plus 0 égale la tête à...
C'est 55 que tu veux.
Ça ressemblait vraiment à ça?
Honnêtement plus crotteux, Loustic.
Willkommen, bienvenue et bonsoir, bonsoir, oh mes chers auditeurs assidus, bonsoir mes chères auditrices éperdues. Non, tu n'es pas en train de rêver, non, tu n'es pas victime d'un complot international, ni qu'on a mis des drogues un peu bizarroïdes dans ton jaja quotidien. Non, tu es bien en train d'écouter Arrête ton cinéma, ATC, si comprendes? Voilà. Et que si tu es en train d'écouter cette émission à ce moment-là de la journée, à ce moment-là de ton existence, c'est que tu es sur les ondes rassurantes, bénéfiques, intelligentes, sensuelles et rassurantes, dynamiques même, de RDWA 107.5 FM. Et qu'il est inutile par conséquent que je te rappelle, aux chères oreilles disponibles, que tu peux retrouver cette émission, comme toutes les autres d'ailleurs, sur le broadcast éternel du www.rdwa.fr. .fr, oui, .fr, non, point besoin, il n'est de le faire, puisque ça fait 151 fois que je l'ai déjà fait, mais vous le savez bien que je le ferai à la prochaine émission, sinon la direction, elle me tape sur les doigts, et que, comme on est en 2007, j'ai pris des bonnes résolutions, je ne me ferai plus taper sur les doigts, et j'aime pas ça. Alors, oh chers petits cerveaux en confettis, chères petites personnes devant sa radio ou devant son ordinateur, nous allons parler des robots, non pas des robots ménagers, mais bien ceux qu'on trouve sur un écran. Voilà. Alors d'ailleurs, le terme robot a été la première fois utilisé en 1920 par le tchèque Karl Čapek dans sa pièce de théâtre Rour, alors qu'on écrit R. Grand R majuscule point grand U majuscule point R point, voilà R-U-R si vous préférez, qui veut dire robot universel of Rossum, puisque robot vient du tchèque robota, qui veut dire corvée ou travaux forcés, puisqu'évidemment la pièce raconte que les robots étant des esclaves, eh ben, ils décident un jour de se révolter et de remplacer l'homme considéré comme imparfait. Mais avant cette pièce, ces personnages existaient déjà. Ces êtres, si vous me permettez cette expression, vivaient déjà dans le milieu naissant du cinéma, mais à l'époque on les appelait des automates. Et c'est d'ailleurs l'inventeur des effets spéciaux, monsieur Georges Méliès pour ne pas le citer, qui avait produit un film aujourd'hui hélas perdu, et qui porte un nom plus que délicat, Gugus et l'automate. Gugus et l'automate, tout un rêve. Créé en 1897, époque où je portais encore des couches-culottes, et d'ailleurs il perdura, non pas moi et ma couche-culotte, mais bien Georges Méliès, dans un autre film nommé Coppelia ou la poupée animée en 1900, qui est tiré de l'œuvre de E.T.A. Hoffmann. Alors ETA n'ont rien à voir avec un groupuscule basque, mais ETA signifie Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, Hoffmann évidemment créateur des contes du même nom dont le fameux Prince Casse-Noisette, et cette œuvre n'est autre que L'Homme au sable, écrit en 1817. œuvre sur laquelle Sigmund Freud, évidemment père de la psychanalyse, appuya sa réflexion sur le concept de l'inquiétante étrangeté. Ouh, que c'est pas facile à dire ça, mais que je m'en suis quand même bien sorti. Et d'ailleurs, chez l'écrivain allemand Monsieur Hoffmann, donc, un jeune homme tombe amoureux d'Olympia, Olympia, celle qui nous joue ses chaussettes, poupée à qui on donne vie. Et de la même manière, il a créé ainsi un brouillage entre l'inanimé et l'animé, bien que de son côté, Čapek leur a conféré une origine un peu plus, comment dire, organique. Alors, l'intelligence artificielle qu'il possède est susceptible d'évoluer, d'éprouver un besoin de liberté, de se muer en désir de contrôle de soi d'abord, et voire même sur autrui. Alors, évidemment, autrui, ce n'est pas les cochons. Alors, en 1909, The Rubber Man de Sigmund Lubin s'éloigne du concept de Coppelia avec sa description d'un humanoïde, donc de forme humaine. Non, mais je dis ça, mais je récupère les copies à la fin de l'émission. Hein. Il y aura interrogation l'année prochaine, bien sûr. La semaine prochaine, pardon. Donc, d'un humanoïde, revenons à nos moutons électroniques, pour rappeler l'œuvre de Philip K. Dick. Donc, des humanoïdes hors de contrôle et qui sèment la terreur. Il anticipe sur le fameux phénomène Frankenstein, entre guillemets, adapté évidemment du Frankenstein ou le Prométhéeus moderne de Mary Shelley, écrit en 1818. Un film italien qui malencontreusement n'existe plus, L'uomo meccanico d'André Dide, 1921, s'appuyant sur les stéréotypes de l'époque et de ces sortes de films, de ces sériels, si vous me permettez cette expression, et qui montre une femme, génie du crime, fabriquant un robot à partir de plans volés à des scientifiques et qu'elle envoie commettre ses propres forfaits à sa place. Il a certes une démarche un peu saccadée, mais il est capable quand même de rattraper une voiture lancée à vive allure. Alors, on est en 1920, la Ford T, c'est pas une Lamborghini Countach, hein, c'est pas une Ferrari ou une Maserati. Donc ça envoie pas du pâté ni du steak. Hein, voilà, non mais faisons, hein, on va descendre d'un étage là. Hein. Donc ce robot est dirigé à distance par de nombreux et impressionnants leviers. Et il accomplit évidemment la volonté de son créateur. Chose importante, parce que ce sera un thème qui reviendra de plus en plus souvent sur le tapis aux étoiles du cinéma. Oui, j'utilise des fois un petit peu de poésie. Alors, si dans les premiers temps, ces robots sont plutôt positifs, comme le fameux Roby le robot. Roby le robot. Ils sont allés chercher hyper loin, les gars. Donc, de la planète interdite en 1956, et d'ailleurs qui a été un des premiers héros populaires non humain, si vous préférez, ou robotisé, hein, parce que je pense qu'il existait aussi des animaux. Mais voilà, et donc, il y a eu un début de merchandising. Voilà, et puis, on a plus proche de nous le R2-D2 et le C-3PO des Star Wars de Monsieur George Lucas. Et puis, évidemment, il y a tout l'univers des enfants avec le fameux Goldorak de Go Nagai, manga japonais des sociétés Toei Animation. L'histoire, hein, je vous le résume, Actarus, prince de Faux, a volé le robot Goldorak et il va défendre la Terre contre les forces de Vega. Voilà, avec les astéroïdes, les fulgurants points, et voilà, enfin, toute mon enfance, quoi. Et puis, il y a aussi autre film d'animation japonais en 1986 et des studios Ghibli sous la plume de Miyazaki, Le Château dans le Ciel, et avec évidemment ces robots sentinelles qui protègent le château dans le ciel, justement. Et puis en version américaine, un film d'animation de Brad Bird de la Warner. Alors, Monsieur Brad Bird, évidemment, c'est Les Indestructibles, c'est Ratatouille, et en film Mission Impossible Protocole Fantôme. Donc, ce film de Brad Bird, Le Géant de Fer, ou en dans les années 50, en 1957, si je me rappelle bien, dans le petit village de Rockwell, les extraterrestres de Rockwell, dans le Maine, en fait, un robot géant d'une trentaine de mètres va tomber et en fait, il était là pour détruire l'humanité, mais il va se lier avec un enfant et c'est justement, et aussi un jeune artiste beatnik. Important, jeune artiste beatnik, voilà. Et évidemment, ils vont devoir, évidemment, comment dire, faire le lien entre la population et surtout l'armée et ce robot pour évidemment empêcher le robot de détruire la Planetas. En 2001, on a le Metropolis, et qui est évidemment un hommage animé à l'œuvre de Fritz Lang. Avec les dessins d'Osamu Tekusa, donc célèbre inventeur de Astro le petit robot, la série animée. En 2004, on a Robots, le monde des robots de Chris Wedge et Carlos Saldana, ceux qui créent l'âge de glace et épique la bataille du royaume secret, où carrément toute la population est robotisée, il n'y a même plus d'êtres humains. Et là, c'est les robots en pièces détachées contre les robots, évidemment, clinquants et tout neufs, mais qui sont obligés de payer à prix d'or leur évolution. En 2008, l'œuvre évidemment exceptionnelle de Pixar, Wall-E, d'Andrew Stanton, et donc Monsieur Nemo et John Carter, évidemment, de dernièrement Le Monde de Dory. Donc Wall-E, évidemment, Wall-E qui est le petit robot laissé sur Terre pour nettoyer justement la planète des pollutions humaines pendant que les hommes sont en train de voyager dans l'espace, et qui va rencontrer Eve Wall-E et qui évidemment va bouleverser l'histoire humaine. En 2009, donc l'année suivante, Astro Boy de David Burns, évidemment d'après le personnage iconique d'Osamu Tezuka. Donc là, on a carrément donc le professeur Tema, vas-y Tema, qui va perdre son fils lors d'une expérience et qui décide de créer un robot à partir de l'ADN de son fils. Et lui donner évidemment la fameuse énergie bleue, parce qu'il y a une énergie bleue qui est gentille et une énergie rouge qui est méchante. Attention, hein, comme la petite pilule bleue, comme la petite pilule rouge d'un autre film, évidemment. Et malencontreusement, en fait, ça va pas le faire. Hein, il va pas reconnaître son fils dans ce robot, il va le rejeter. Et évidemment, l'Astro Boy va sauver la ville. Un grand classique. Et puis plus dernièrement, c'est français dans le thème. Et puis dernièrement, donc en 2015, les nouveaux héros avec le fameux robot Baymax, évidemment des studios Disney. Alors, on va faire un petit passage musicalesque avec un autre parce que si on parle des robots, il faut pas oublier aussi les cyborgs, hein, puisque c'est quand même. Alors, c'est-à-dire que le robot, évidemment, est entièrement mécanique, hein, mais le cyborg est à moitié robot, moitié humain. Mais bon, effectivement, parce qu'en fait, c'est vrai que de la même manière que le fantastique, la science-fiction, évidemment, a recours au motif de l'hybridation, hein, qu'elle adapte à ses préoccupations. Donc, dès 1879, l'écrivain Edward Page Mitchell imagine un homme pourvu d'un ordinateur à la place du cerveau dans son A Best Man in the World. D'ailleurs, le terme cyborg, contraction de l'expression cybernetic organism. Ouais, organisme cybernétique. Et comme je parle trop bien l'anglais. Non, mais c'est fifou, hein. Non, parce que, je veux dire, pour devenir animateur sur RDWA, tu es obligé de parler 2-3 langues, quoi. C'est obligatoire. Fais pas tes tests, sinon, pas que tu. Non. Mais non, tu ne deviens pas animateur. Donc le cybernétique organisme, donc organisme cybernétique, désigne un être vivant hybride qui, contrairement au robot, est en partie humaine et en partie machine, donc comme je viens de vous le dire. Cette figure permet de s'interroger sur l'essence de l'humanité face à une technologie qui occupe une place de plus en plus importante. Évidemment, l'industrialisation avançant en parallèle du cinéma, puisqu'il faut rappeler quand même que le cinéma en France faisait partie du ministère de l'industrie et non de l'art. Mais bon, effectivement, à l'époque, voilà, il n'y avait pas de ministère de la culture. C'est arrivé après-guerre, hélas. Donc voilà, donc une technologie qui occupe évidemment une place de plus en plus importante. D'ailleurs, certains spécialistes actuels de la cybernétique peuvent même affirmer qu'un pourcentage conséquent de la population dotée par exemple de pacemaker relève d'ores et déjà de cette catégorie. Voilà. Et puis donc évidemment il y a toute une œuvre, mais ça je parlais au plus dans l'émission, mais ça me faisait rebondir puisque évidemment on parle aussi donc des cyborgs. Il y a évidemment Ghost in the Shell, et Ghost in the Shell dans le film il lutte contre le Master Puppets, et évidemment Master Puppets c'est Metallica. Donc voilà un petit moment de musique, mes chers auditeurs. Master of Puppets du groupe Metallica, hommage évidemment à Ghost in the Shell. Alors revenons avec Uomo Meccanico, hein, le film italien. On va voir apparaître le combat de deux géants de fer au cours d'un bal masqué ohé ohé. Et donc évidemment suivra le gigantisme japonais des Godzilla, donc celui contre le Mechanics Monster de Yuno Fukuda en 74 et Mecha Godzilla contre-attaque de Ichiro Honda en 75, et puis plus proche de nous, les Transformers de Michael Bay en 2007, hein, les fameux Autobots, et les Decepticons, déconnez pas les gars. Donc évidemment, cette fois-ci, c'est carrément une race d'extraterrestres qui sont capables de se transformer et de prendre l'aspect d'automobile, de camion, hein, comme Monsieur Optimus Prime ou Bumblebee. Et puis il y a aussi les Pacific Rim de Guillermo del Toro, qui d'ailleurs semble abandonner le second volet de ces géants, de ces fameux Jaguars qui luttent contre les extraterrestres Kaiju et qui sont finalement quelque part la version américaine et inversée des Godzilla, puisque Godzilla défendait le monde contre les robots, et là, et ben ma foi, c'est les robots qui défendent le monde contre des Kaiju. Et puis aussi, évidemment, que dire de Gort ou Gore, hein, c'est comme vous voulez, le fameux géant robot, le robot géant, ce serait même mieux, hein, et qui aide l'alien Klaatu du jour où la Terre s'arrêta de Robert Wise en 1951, avec évidemment la version plus moderne avec Kenny Reeves. Et puis, il faut bien le dire, au bout d'un moment, ben, le robot, à force, voilà, il n'est pas tout le temps gentil, hein, il est aussi un petit peu méchant, hein, puisque dans le fameux Monde Ouest de Michael Crichton, le mec de Jurassic Park et de la série Urgence en 1973, Monde Ouest, où là on a un parc à thème, où des gens viennent d'horizons diverses pour se dévêtir dans un parc qui a trois thématiques, donc le monde du western, le monde médiéval et le monde romain, où les êtres humains peuvent absolument tout faire, puisqu'en face d'eux, ils ont des robots qui peuvent obéir à tous leurs désirs, et on peut même se faire un duel au soleil et forcément ne pas mourir, puisque les robots et c'est là où on fait une petite digression, puisqu'il faut savoir qu'en 1938, un célèbre biologiste d'origine russe nommé Isaac Asimov décrète que si l'homme décide de créer un être artificiel qui sera à son service, eh bien il faudra qu'il fasse tout pour qu'il ne se retourne pas justement contre ce créateur, et qu'il donc il faudra décider de ces fameuses trois lois immuables de la robotique, hein, qu'on verra dans de nombreux films, et donc dans iRobots. Et donc voilà, effectivement, là ils sont protégés, ces êtres humains sont protégés dans Monde Ouest. Je reviens à Monde Ouest de Michael Crichton. Donc ils sont protégés, mais malencontreusement, l'un de ces robots, sous les traits de Yul Brynner, hein, les sept mercenaires, ou Anna et le roi, eh bien Yul Brynner, voilà, décide de, ma foi, changer la donne et commence à dessouder de l'humain. Et ça tourne évidemment au cauchemar. Ce qui ne sera pas évidemment sans rappeler le fameux Terminator de John Cameron en 1984, où là carrément Skynet décide de créer des robots à face humaine pour justement rentrer dans les caches de ses adversaires et pouvoir les plomber. Voilà, la série Chapeau Melon et Bottes de Cuir en fait aussi de la part belle à ce thème, notamment dans deux épisodes, celui l'espion qui venait du surgelé, hommage à Monsieur Bond évidemment, puisqu'un scientifique joué par Vincent Price crée des femmes robots superbes, de véritables bombes au sens propre comme au sens figuré. Et puis en 2004, on a le fameux iRobot d'Alex Proya qui évoque en 2035 la révolte des robots malgré les fameuses trois lois de la robotique chères à ce monsieur Isaac Asimov dont je viens de vous parler. Et puis dans Moon, alors là, pour l'occasion, c'est pas vraiment méchant, mais dans Moon, donc le film de Duncan Jones, qui raconte l'histoire d'un astronaute, Sam Rockwell, qui se nomme Sam, et qui est en fait responsable seul d'une base lunaire, et qui est assisté par un robot, Jerty, et dont dans l'écran, le petit écran affiche des émoticônes selon son humeur, et lui il va tenter de l'aider malgré les directives que l'entreprise fait appuyer sur lui, puisque finalement ce n'est qu'un robot et donc il suit il est binaire, hein, 0101 01. Donc voilà, effectivement là pour l'occasion il n'est pas vraiment gentil, mais il n'est pas vraiment méchant puisqu'il quand même il va aider Sam. Mais ça me fait penser à un autre ordinateur, puisque là il y a évidemment les robots qui sont évidemment des présences physiques, comme dans le Terminator, mais évidemment il y a aussi les ordinateurs qui commencent à diriger nos vies de plus en plus. Et évidemment le plus connu c'est le HAL 9000 de 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, et qui est un ordinateur qui dirige le fameux mission jusqu'à Jupiter et qui décide qu'il faut en finir avec les êtres humains. Et d'ailleurs, pour la petite note, si on décale d'une lettre chaque initiale de HAL, donc H-A-L, donc on décale de 1, ça fait IBM. Voilà, c'est les fameux auteurs, les auteurs mais littéraires qui avaient décidé ça. Et parce qu'en fait, il y avait évidemment... À l'époque, si on fait une photo de HAL 9000 et de IBM 360, qui était à l'époque l'ordinateur le plus puissant au monde, eh ben on trouve quand même qu'ils sont assez ressemblants. Donc voilà, HAL, IBM, voilà. Et puis on va retrouver évidemment dans WALL-E, évidemment l'ordinateur central Axiom, qui est en version américaine à la voix de Sigourney Weaver, évidemment, qui refuse de déroger à sa fameuse règle et qui ne veut pas retourner sur Terre, et que l'être humain va devoir, grâce à l'aide de WALL-E, de Eve, rabattre son caquet pour qu'évidemment l'humanité puisse reposer le pied sur Terre et reprendre son destin en main. Alors, l'androïde robot construits pour ressembler plus ou moins à l'être humain, sont utilisés pour le questionner, notamment sur la notion d'humanité et la suprématie de la race humaine, puisqu'on peut le voir aussi dans le film I, Robot, évidemment, puisqu'il y a quand même une bonne forme de, comment ça s'appelle, de racisme anti-robot. Et puis, puisque notamment dans le film Metropolis en 1927 de Fritz Lang, ça aborde le sujet par le biais de la figure double du personnage, puisqu'effectivement il y a Maria, donc le rôle principal féminin qui est tenu par Brigitte Helm, et évidemment un androïde qui est fait à son image, l'une qui tente de bouger le monde et une autre qui tente de le détruire. On le voit aussi notamment dans le fameux film iconique Blade Runner de Ridley Scott, qui sera un petit pont vers Alien et Prometheus, et qui devrait d'ailleurs peut-être ressortir dans le Blade Runner 2, puisqu'évidemment Philippe K. Dick, qui est l'initiateur de Blade Runner, puisqu'évidemment ce sont toutes des œuvres justement de Philippe K. Dick, et qui s'interroge sur la mince frontière qu'il y a entre l'être humain et le réplicant, qui pour l'occasion est peut-être plus un cyborg qu'un robot, mais tout de même. Voilà, puisqu'on lui fait ses yeux, il est organique, il est fait de chair, mais peut-être pas d'os. Et puis bon, c'est quand même des répliques, d'où le terme répliquant, et qu'on retrouve évidemment dans le Alien, puisque le responsable du Nostromo, le responsable médecin, n'est autre que H, et qui est techniquement un répliquant lui aussi. Et on le verra aussi dans le Prometheus avec évidemment David, Michael Fassbender, lui aussi, puisque Ash dans Alien, lui, est au courant qu'effectivement, il y a bien des aliens sur cette planète et qu'ils font en ramener un aux industries. Et puis là, dans le Blade Runner, c'est les industries Tyrell, hein, qui évidemment, dont la devise est plus vraie que vraie. Et ça, évidemment, ça interroge donc sur cette mince frontière, puisque on ne les reconnaît tellement pas qu'il faut des Blade Runner pour les chasser. Et grâce à un test, le fameux test Voight-Kampff, parce que le problème, c'est que évidemment, face à certaines questions, les réplicants ont un peu du mal à répondre. Mais cette frontière sera encore amoindrie puis avec la présence de Rachel, puisque on donne aux réplicants une base de souvenirs, notamment celui de la nièce de Tyrell. Et donc, il est de plus en plus difficile de faire la différence autre. Et on se demande d'ailleurs même si Deckard est un réplicant, puisqu'évidemment, il y a le fameux événement des yeux rouges dans le film, parce que tout ce qui est yeux rouges, logiquement, dans le film, est un réplicant. Voilà. Les robots, à travers plus de 50 ans de cinéma, ont quand même sacrément évolué depuis le 1927, le Metropolis. Bon, évidemment, là, les effets spéciaux ont forcément augmenté, donc forcément, il est plus facile de le faire apparaître à l'image. Mais il y a aussi, évidemment, l'avancée de l'industriel et informatique qui fait qu'on s'interroge de plus en plus la place de l'être humain dans sa société et même celui, évidemment, du robot. Puisque dans les années 50, on tourne à deux films. Il y a Le jour où la Terre s'arrêta de Robert Wise et puis La planète interdite. En 1960, il n'y en a qu'un seul, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais à partir de 70, là, on commence de plus en plus à voir des films, puisqu'évidemment, il y a aussi toute une nouvelle arrivée de jeunes réalisateurs qui vont se lancer dans la science-fiction et donc forcément l'univers cher aux robots. Puisqu'on a le THX 1138 de George Lucas, où les policiers sont des robots à face d'argent et qui vous poursuivent avec des matraques. Et puis en 73, Monde Ouest. En 77, évidemment, l'avènement de Star Wars avec notre cher R2-D2. Alors avec évidemment C3PO qui est quand même capable de parler 6 millions de dialectes. Et puis, à contrario, là on a R2-D2 qui curieusement, ma foi, s'exprime, tout le monde le comprend, mais moi, enfin, c'est toujours les mêmes sons, mais tout le monde comprend ce qu'il veut dire. Et ce qui est quand même assez marrant, puisque quand même c'était deux êtres humains qui jouaient ces fameux robots. Et puis en 79, il y a Alien, le huitième passager, donc avec Ash. En 79, il y a Le Trou Noir, qui est un film Disney très peu connu, mais qui est très bon, donc avec un robot très très méchant, avec des trucs qui tournent et qui coupent, un petit robot assez gentil. Malencontreusement, ça fait partie de ces films qui ont très très mal vieilli, donc il faut regarder avec un 2 ou 3ème degré, parce que là effectivement on est loin de la perfection. Et puis dans les années 80, on continue, on agrandit même, puisque évidemment les Star Wars continue, il y a même Le Choc des Titans. Alors vous me direz, Le Choc des Titans, t'es gentil mon petit père, mais enfin bon, là on est dans la mythologie grecque. Oui, mais il faut rappeler le fameux personnage de Bubo, qui est donc cette fameuse petite chouette mécanique, chouette évidemment, qui est le symbole d'Athéna, donc de la guerre juste, et évidemment aussi l'œuvre d'Héphaïstos, le fameux forgeron des dieux. Et puis en 82, on a les réplicants de Blade Runner, toujours les Star Wars. Et puis les débuts, évidemment, de la saga des Terminators avec le T-800. Qui est capable de voyager à travers le temps grâce à sa peau. Et qui peut, évidemment, se confondre avec les autres humains et pouvoir les tuer. Et qui part à la recherche, évidemment, de Sarah Connors. En 84, on a Runaway, donc l'évadé du futur de Michael Crichton, encore lui, avec Tom Selleck, une sorte de MacDom, plutôt Blade Runner, donc qui est à la recherche d'une certaine puce électronique qui est capable de transformer le robot de ménage de Madame en serial killer. Et puis en 87-89, Robocop 1 et Robocop 2 de Paul Verhoeven. Et là, on s'interroge évidemment sur le côté cyborg, c'est-à-dire que grâce à une machine, la l'agent Murphy peut évidemment donner la justice dans cette bonne ville de Détroit, qui est évidemment la ville de l'industrie américaine par excellence, mais qui évidemment aussi, hélas, dépendant de cette machine et dépendant surtout de ses dirigeants. Et donc voilà, donc là on est dans un truc à l'inverse de comment ça s'appelle des Terminators, puisque là Murphy doit lutter pour son humanité dans cette carcasse mécanique. Donc très belle œuvre aussi. Puis on commence dans les années 90 avec Total Recall, toujours Philip K. Dick, donc avec ces fameux taxi drivers que va violenter méchamment monsieur Arnold Schwarzenegger, finalement une vengeance. Et puis on a les Terminator 2, les Robocop 3, Judge Dredd en 95, là où carrément un robot va être l'ennemi de notre cher Judge Dredd. Et puis en 97 on a carrément l'Alien la Résurrection, avec là le personnage de Winona Ryder, qui en fait à l'inverse de Ash ou même de Bishop se considère plutôt comme un monstre, hein, puisqu'effectivement Ash détestait qu'on l'appelle réplicant, et Bishop lui par contre n'en fera rien du tout. Et mais Winona Ryder elle par contre se considéra vraiment comme une erreur. Et puis en 99 il y a le début de la trilogie de Matrix, et là avec évidemment deux sortes finalement de robots, hein, puisqu'on a évidemment les sentinelles, hein, ces espèces de petits trucs à pinces là qui décident d'attaquer le Nabucodonosor de notre cher Morpheus, mais il y a aussi les agents Smith qui font partie de la matrice, donc ils sont des ennemis un peu plus virtuels, les fameux programmes, hein, comme le Mérovingien. Toujours, et puis on a le renouveau des Star Wars, hein, là, carrément la création des R2 et de C3PO. Et puis en 2000, puisqu'on commence les années 2000, il y a L'Homme Bicentenaire de Chris Columbus, qui est un film assez familial, hein, avec son fameux robot domestique NDR 114, qui en fait s'interroge sur sa possibilité de devenir un être humain, parce qu'il est vrai dans sa famille où il est, et ben soit on le considère comme un robot ménager, soit comme un membre à part entière de la famille. Donc une belle interrogation. Et puis en 2001, il y a Intelligence Artificielle, Steven Spielberg aussi. Et puis en 2003-2002, les Star Wars 2, les Terminator 3, les Matrix Révolution. Et puis une petite perle, L'Homme créé à la femme, où là, carrément, dans une petite commune de Stepford, eh ben, on a décidé de remplacer les femmes un petit peu virulentes par des robots notamment plus dociles. Oh, mon rêve. Non, je plaisante. En 2005, iRobot d'Alex Proyas, donc. Et puis, le robot le plus drôle que j'ai connu, le fameux Marvin, hein, qui est donc le robot au plus grand cerveau, hein, donc un petit corps et une très grosse tête toute sphérique. Dans H2G2, le guide du voyageur intergalactique, Marvin est certes l'être le plus intelligent, malencontreusement, il est aussi le plus dépressif. Et puis on a toujours donc les Star Wars, les Transformers qui apparaissent en 2007, donc les Autobots contre les Decepticons. Là effectivement on est plus dans des robots mais qui viennent d'une autre planète, donc qui ne sont pas vraiment une création de l'être humain, mais ils les protègent ou ils les détruisent, hein, selon qu'ils sont d'un côté ou de l'autre. Et puis en 2008 on a Iron Man, donc Tony Stark. Alors avec vous me direz, mais attendez, c'est un mec qui porte une armure. Oui, mais en fait il est un peu comme Morphy de Robocop, parce que sans son armure il ne peut pas vivre, il a besoin, c'est comme le pacemaker. Donc finalement il est plus proche certes du cyborg que du robot, mais il est quand même techniquement, il fait bien partie de la thématique d'aujourd'hui. Oui, c'est un cyborg, puisque sans cette petite machine qui le fait vivre, eh ben, il mourirait, oui madame, il mourirait. Voilà donc Iron Man. La Terminator Renaissance avec la création du fameux T-800 sous les traits de Marcus Wright, le nom du personnage. Et puis Star Trek, alors là c'est vraiment le début du film, puisqu'il y a le fameux policier qui arrête le jeune capitaine, à l'époque il ne l'est pas, mais le jeune James Tiberius Kirk, donc là qui est évidemment un policier qui a une certaine forme humaine, qui n'est pas sans rappeler le fameux THX 1138, mais qui n'a pas du tout un visage humain. Les Transformers de nouveau, et puis un clone aussi, donc oui. Un clone où là carrément on a décidé d'avoir des clones de soi et qui font tout ce qu'on n'a pas envie de faire, malencontreusement, comme d'habitude, dès qu'on crée des trucs, ça se passe mal au cinéma. C'est quand même tout de même curieux, l'Iron Man 2, et puis en 2011, on a une petite perle aussi, qui est Real Steel, avec notre cher Hugh Jackman, Wolverine, qui raconte l'histoire d'un garçon qui décide de réparer un petit robot d'entraînement, qu'on appelle Axiom, et qui décide d'en faire un boxeur, puisque évidemment, à cette époque-là, dans le film, on fait de la boxe à partir de robots, donc c'est des robots boxeurs. Et ce cher Axiom, qui sera entraîné évidemment par Hugh Jackman, va grimper dans la hiérarchie jusqu'à affronter évidemment le champion Zeus. Alors, ce qui me fait quand même sacrément marrer, on a l'impression d'une version de Stallone, Rocky Balboa, puisqu'évidemment, c'est le mec qu'on croit plus du tout, c'est le petit robot d'entraînement que tout le monde rigole et qui finalement va ébranler la hiérarchie. Assez rigolo. Alors ça détend, c'est pas une grande réflexion sur le robot et l'être humain, mais bon, moi j'avoue que voilà. Après, c'est un truc typiquement américain, évidemment, le self-made man, hein, le petit gars venu de rien et qui arrive à évidemment bouleverser la hiérarchie. En 2011, il y a Sucker Punch, donc les fameux robots qui sont dans ces fameux... Sucker Punch, c'est un film assez bizarroïde où une femme, dès qu'elle se met un petit peu à danser, rentre dans des mondes parallèles. Et là, évidemment, c'est toujours assez bourru, assez couillu, comme vous me permettez cette expression. Donc avec les fameux robots protecteurs du train et aussi ceux des guerres de tranchées en 1917, mais version un petit peu remasterisée. Transformers 3, et puis un petit film espagnol qui est là de nouveau une nouvelle perle. En 2012, Eva de Quique Mayo, qui évoque la création d'enfants robots, hein, pour les ménages qui auraient des problèmes d'enfants. Mais c'est un film, pour l'occasion, qui serait plus interrogatif. Hein. On est loin des blockbusters ou des films d'action, mais vraiment une belle question sur l'interrogation du robot face à l'humanité. En 2012, il y a Prometheus, donc le fameux androïde David, joué par Michael Fassbender. Total Recall, puisqu'on là on est carrément dans les remakes, donc Total Recall, les mémoires programmées, l'Iron Man 3, les Pacific Rim, donc les jaguars contre les kaiju, Man of Steel, où sur Krypton, ma foi, les serviteurs sont des robots, donc une évocation de la modernité, donc c'est-à-dire que dans le futur, effectivement, puisque Krypton est considéré plus évolué technologiquement, les robots sont les serviteurs des êtres humains. Et puis en 2013, Elysium de Neil Blomkamp, où des droïdes sont censés protéger la minorité privilégiée de la station orbitale Elysium. Et puis Wolverine en 2013, dans le combat de l'immortel, doit combattre un cyborg nommé le Samouraï d'Argent. Il y a évidemment le remake de Robocop. Et puis les fameux sentinelles des X-Men Days of Future Past, ces terribles sentinelles qui, sous la décision du gouvernement américain, ont décidé de tuer tous les mutants qui sont considérés comme une menace à l'être humain. C'est-à-dire que là, c'est plus Skynet et ses Terminators qui décident de détruire l'être humain, puisqu'il est considéré comme imparfait, mais c'est des humains qui considèrent que ceux qui ne sont pas comme eux décident de les massacrer, évidemment. Donc, ça a été quand même un gros moment de tout ce qui était comics, concernant les X-Men. C'est fameux, puisque évidemment le personnage de Phoenix, là je parle des comics, décide de rentrer dans un univers parallèle et décide évidemment de changer les choses parce que pour elle, il est trop tard dans son propre univers. Donc voilà, donc c'est vrai que les sentinelles sont quand même pour l'occasion des êtres très 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 méchants. Oh, ils sont méchants, méchants. Et puis dans les Transformers, l'âge de l'extinction, on va carrément apparaître les Dinobots. Et puis en 2014, nouvelle petite perle, Interstellar de Christopher Nolan avec les fameux robots Case et Tarsk. Alors Tarsk, c'est sans doute un hommage à Tarkovsky. Et puis là, évidemment, superbe, j'ai beaucoup aimé parce que c'est vrai que ça ressemble un peu à ces anciens ordinateurs rectangulaires qui ressemblaient à des commodes et qui sont capables d'aller très vite, de prendre et qui sont pas dénoués d'humour. Donc j'ai vraiment trouvé ces robots excellentissimes. Bon, déjà, l'Interstellar, j'ai trouvé ça excellentissime. Donc voilà, pour l'occasion, les robots et les Tars profitent de cet enchantement. Et puis en 2015, on a eu Chappie, toujours de Neil Blomkamp, avec un petit robot qui a été créé, qui ressemble d'ailleurs à ceux d'Elysium, du même réalisateur, et qui lui, en fait, essaie de devenir humain et qui garde une certaine part d'enfance ou d'enfance, hein, je vois pas tellement, avec évidemment le groupe The Antwood qui essaie de profiter de la puissance du robot pour ses actions. Voilà, donc c'est un beau film, malencontreusement. Alors, c'est un peu difficile à dire que ce soit un succès, puisque j'ai l'impression qu'il, quand même, il copier-coller un petit peu de Robocop, hein, où on a carrément Sigourney Weaver qui décide de détruire le robot et en même temps un Hugh Jackman qui décide de faire passer son propre robot, qui n'est pas sans rappeler celui de Robocop, le gros méchant du film. Donc voilà, je pense qu'il y avait vraiment un très beau truc à faire. Il y a eu vraiment des passages superbes dans ce film, malencontreusement, je pense, pas assez appuyé. Et puis, la même année, les Avengers, l'ère d'Ultron, hein, puisqu'évidemment, Tony Stark et son collègue, Monsieur Hulk, décident de créer Ultron, qui serait donc une intelligence artificielle censée protéger l'humanité. Malencontreusement, il n'a pas tout suivi le protocole et il décide carrément, plutôt que de la protéger, carrément de l'éliminer. Voilà. Et même avec la création de Vision qui serait l'aboutissement de ce projet Ultron. Il y a aussi, et toujours la même année, puisque là ça va être que des films de l'année précédente, donc de 2015, hein. Donc à la poursuite de Demain, qui était donc un des Disney qui malencontreusement est passé un peu à l'as, où carrément là une jeune robot qui se nomme Athéna décide de recruter malgré la direction officielle, des gens qui voient un petit peu le monde autrement, puisqu'en fait au début on a créé une sorte de société entre guillemets pas tellement secrète mais dans un univers parallèle où on mettrait vraiment des génies ensemble pour tenter d'améliorer le sort de tout le monde. Malencontreusement, ça s'est pas superbement bien passé, mais malgré cela, et ben Athéna décide de continuer et donc elle va donner un petit pins à une jeune fille pour qu'on recommence l'aventure. Et voilà, elle va choper Monsieur George Clooney pour aller combattre Mr. House, le Dr. House. Voilà, Uglory. Donc, qui est un film, alors voilà, vraiment dans l'esprit Disney, c'est assez marrant. Mais bon, voilà, après, ça va pas vous bouleversifier l'existence. Il y a évidemment Ex Machina, voilà, avec Ava, qui est un robot féminin doté d'une intelligence artificielle, qui est un film un peu anxiogène, un peu lourd, que j'ai eu vraiment du mal à suivre, hein, pour l'occasion. Donc voilà, mais je pense que, effectivement, comme Eva, le film espagnol, c'est vraiment un film, si vous voulez vraiment vous interroger sur la robotique et l'humanité, je pense que ces deux-là, c'est obligatoire de les voir. Dernièrement, on a eu évidemment le Terminator Genesis, hein, l'ultime, j'espère, parce que là c'est vraiment le de trop. Mais par contre, avec effectivement une belle évolution, puisqu'on avait le T-800 qui était le robot Barack, on a eu pas le Barack Obama, hein, mais Barack comme une baraque, comme une armoire, quoi, un truc mastoc, quoi, hein, qui envoie du pâté, quoi. Voilà, qui avance, qui lâche rien, l'impact physique, tu vois, le bourrin, quoi. Après, il y a eu le truc un peu plus intelligent, le morphine, tu vois, le truc. Et puis, Et puis on a eu la nana aussi, hein. Et puis là, on a carrément, alors là, carrément, c'est les nanos. Parce qu'effectivement, c'est de l'évolution. C'est-à-dire qu'on a eu le robot vraiment comme Robbie dans La Planète Interdite, qui est évidemment le mastoc, les géants face comme les Pacific Rim, et puis les morphines, c'est-à-dire qu'on donne de plus en plus une apparence aussi humaine qui ressemble. Et puis il y a ce qui est les nanotechnologies. Donc là, carrément, puisqu'on en voit aussi dans Transcendance, hein, où Johnny Depp carrément devient presque un dieu grâce à la nanotechnologie. Donc voilà, donc là aussi, ben, dans le Terminator Genesis, évidemment, la nanotechnologie est au goût du jour. Voilà, et donc, évidemment, Sarah Connor doit lutter contre, bon, spoiler, contre son fils. Pour l'occasion, ça c'est bien fait. Malencontreusement, ce n'est pas abouti ce film, mais c'est pas grave, hein, on peut pas tout le temps réussir. Et puis, évidemment, on clôture l'année avec le retour des Star Wars 7, évidemment, avec le BB-8, puisque évidemment, c'est le petit robot à boule qui remplace le fameux R2-D2 des épisodes précédents. Voilà. Eh bien, mes chers auditeurs, mes chères auditrices, j'espère. Parce que, alors, effectivement, on pourrait faire aussi une liste de tous les robots qui ont quand même vachement bouleversifié ces années de cinéma, que ce soit le R2-D2, le C3PO, le Robocop et autres, sans oublier évidemment le bonhomme de fer, hein, dans, comment ça s'appelle, le machinien d'Oz, hein, c'est le fameux, mais ça répond très bien à la thématique de cette émission, puisque effectivement c'est le fameux la boîte de fer qui veut ressembler à un être humain et donc avoir un cœur. Et voilà toute la thématique qui a poursuivi, c'est est-ce que finalement une création de l'être humain qui aurait une intelligence, puisqu'il ne faut pas oublier notre cher monsieur René Descartes, si je pense, donc je suis, donc si l'ordinateur réfléchit, donc il est. Voilà, mais est-ce qu'il est considéré comme un être vivant? Est-ce qu'il est considéré comme un être tout court? Puisque finalement, il est une création d'un être humain, mais finalement, si on rejoint le christianisme et autres religions, ils sont aussi la création, donc je veux dire, finalement, c'est la création de la création de la création. Donc voilà, donc je vous laisse bien réfléchir sur tout ceci, hein, et je vais vous laisser avec une petite musique qui est issue de la bande originale du film Robots. Voilà, avec une version tout à soi de James Brown, Get Up of the Thing, que je trouve excellentissime. Donc forcément, je l'ai mis vers la fin. Et donc, je vous dis donc à la semaine prochaine. Hein. Donc, bonne interrogation. Je ramasserai les copies la semaine prochaine. Donc voilà, le robot dans le milieu du cinéma, mais qui interroge évidemment l'être humain dans cette société de plus en plus électronique, de plus en plus mécanique. On a des assistances pour les voitures, on a des assistances sur nos portables. On a tout plein d'évolutions qui fait qu'évidemment de plus en plus les êtres humains sont dépendants de ces machines, mais jusqu'au jour où, ma foi, peut-être qu'elles nous remplaceront, puisque l'avantage de l'ordinateur, c'est qu'il est considéré comme infaillible, il ne fait jamais d'erreur, même si techniquement il y a des bugs de l'an 2000 qui passent au milieu, mais non, dans les films, non, du tout, il est toujours évidemment pro carré, et on y a toujours cette histoire de l'humanité qui est quand même assez floue, hein, un bon flou artistique vis-à-vis du côté très lisse et très épuré du robot, qui soit se déchaîne dans une guerre atomique à la Terminator, ou carrément on élimine l'être humain. Voilà. Donc c'est sur ce passage très gai que je vais vous laisser, mes chers auditeurs. Et donc je vous dis, regardez toujours des films, regardez le cinéma, et à la semaine prochaine, mes chers auditeurs adorés. Et je vous dis au revoir avec monsieur James Brown. Sing it now. Get up off of that thing and dance to you. You better.
Watch the next thing!